Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors il y a une crise des gauches de gouvernement, une crise de la social-démocratie dans toute l'Europe, on en parle très régulièrement à ce micro. Vous entamez ce matin une réflexion justement sur ce sujet par le Parti travailliste britannique, on va commencer par ça ?
Oui, grâce à la revue Intello Britannique Prospect qui a la bonne idée de consacrer ce mois-ci un dossier à la crise du Labour. Si Theresa May provoquait des élections anticipées, les instituts de sondage accordent à peine un quart de l'électorat à l'un des plus anciens et des plus puissants partis travailliste du monde fondé en 1900. Que s'est-il passé depuis 1951, l'année où les travaillistes réalisèrent le meilleur score de leur histoire en frôlant la majorité absolue dans un système électoral à un seul tour? Et ben, c'est un historien d'Oxford, Ross McKibben, que Prospect demande d'expliquer les causes de ce déclin. Premier constat. La Grande-Bretagne de 1951 était une nation industrielle. 70% des hommes étaient des travailleurs manuels. Et vous aviez 2 millions de mineurs et ils votaient travaillistes en masse, encadrés par de puissants syndicats. Ensuite, les mentalités étaient binaires, héritage des années de guerre. Vous étiez du côté des patrons et de l'encadrement ou bien du côté des ouvriers. Ensuite, l'État jouait un rôle déterminant dans une économie de rationnement. Il contrôlait les prix, le crédit et une partie de la production à travers les nationalisations. Il était garant du plein emploi. Oh, la Grande-Bretagne était encore loin de la prospérité, les salaires étaient très faibles, mais le chômage était pratiquement inconnu. Bref, c'était une économie de type social-démocrate qui favorisait le parti du travail. Et il y avait une autre différence substantielle avec le Royaume-Uni de 2017. En 1951, le pays était presque totalement blanc. Le recensement de 1951 enregistre la présence de 20 000 personnes de couleur. Contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, il y avait pourtant des immigrés à l'époque, mais ils venaient essentiellement de la pauvre Irlande, ainsi que de la Pologne et des États baltes tombés aux mains des soviétiques. C'était un pays de peuplement anglo-celtique, nous dit notre historien, et la grande majorité des électeurs du Labour tenait à ce qu'il demeurât ainsi. Enfin, autre différence de taille, le Labour était profondément attaché à l'unité nationale. Alors que les conservateurs se proclamaient unionistes, en réalité, ils étaient profondément anglais. Les travaillistes, eux, veillaient jalousement sur l'unité du Royaume-Uni. Ils fermaient les yeux sur le régime d'apartheid imposé aux catholiques en Irlande du Nord et l'Écosse, de son côté, ne réclamait pas l'autonomie, encore moins l'indépendance. Pour être travailliste, on n'en était pas moins patriote.
Et alors aujourd'hui, Brice, en quoi les changements ayant affecté la société britannique expliquent-ils le déclin du Parti travailliste pour vous ?
Aujourd'hui, poursuit toujours notre historien d'Oxford, tous ces éléments qui favorisaient le Labour ont disparu. La Grande-Bretagne n'est plus une économie industrielle, mais une nation de classe moyenne. Les friches industrielles laissent des chômeurs amers. Les usines sont parties en Asie. Ils en veulent au Labour de n'avoir pu l'empêcher, d'autant qu'ils constatent que les nouveaux emplois, qualifiés ou pas, dans les services sont remplis par des immigrés venus par millions et protégés par l'Union européenne. Le niveau de l'immigration a été culturellement perturbant pour la majorité de la population autochtone, écrit Ross McKibben, parce qu'elle y voit un défi à l'idée qu'elle s'est faite de la Grande-Bretagne, comme quoi l'insécurité culturelle n'est pas une spécialité française. Autre chose, dans les années 50, le Labour était le parti de l'État. Les salariés des entreprises nationalisées constituaient un réservoir naturel de suffrages ouvriers. Aujourd'hui, l'État absorbe un pourcentage supérieur de la richesse nationale, mais il ne se mêle plus de produire et un large consensus règne dans le pays sur le fait que c'est une excellente chose. Mais ce retrait pénalise sévèrement le Parti travailliste.
Et au cours des années suivantes, est-ce que l'érosion du Labour a été constante ?
Plus ou moins, et c'est ce qui préoccupe notre Ross McKibben. Pourtant, dans les années 60-70, sous les gouvernements travaillistes de Harold Wilson et de James Callaghan, l'État s'est lancé dans une série d'opérations de sauvetage d'industrie et il s'est attiré ainsi la fidélité de salariés qui lui étaient redevables. Mais ces politiques déclenchèrent une vague d'inflation qui ébranla et fractura la société. Pour tenter de la juguler, le gouvernement a tenté de limiter la hausse des salaires et s'est ainsi aliéné les syndicats. Et on se souvient de l'époque fin 78, début 79, où a eu lieu ce qu'on a appelé l'hiver du mécontentement. Le pays croule sous les grèves, même les pompes funèbres refusent d'enterrer les morts. Le Labour subit sa première crise sévère, Thatcher va gagner les élections. Le Labour, atteint par cette sévère défaite, va se radicaliser, s'écartant pour longtemps du pouvoir. Sous la direction de Michael Foot, en 1980, le parti se prononce pour le désarmement nucléaire, la rupture avec l'OTAN, le départ de l'Union européenne. Quatre anciens ministres, effarés par cette dérive, s'en vont fonder un nouveau parti, social-démocrate, crise majeure.